Bonsoir à tous. Bienvenue à la médiathèque Bonlieu pour ces rencontres littéraires. Cette année, nous avons une saison un peu particulière. Nous vous proposons des rencontres autour de genres littéraires. Donc, c'est la première ce soir autour de la fantasy. En avril, vous aurez quelque chose, une soirée autour de la nouvelle. Et puis, au mois de mai, vous aurez une rencontre autour des feel good books, les livres qui vous font du bien. Alors ce soir, moi je suis ravi en tant que bibliothécaire d'accueillir des auteurs, un libraire, un éditeur qui est aussi critique littéraire. Ça vous montre aussi que ben, au niveau des professionnels du livre, on se connaît déjà, puis on aime discuter et on aime discuter avec les lecteurs. Je pense que ce soir ce sera très interactif, je l'espère en tout cas. Ils ont prévu ça je crois, mais je ne vais pas trop dévoiler. Je vous souhaite une très bonne soirée. Profitez bien. Je vais laisser la parole à Jérôme Vincent qui va vous présenter les différents intervenants. Et puis la soirée est lancée. Très bonne soirée.
Merci beaucoup. Merci. Merci d'être avec nous ce soir. On a une thématique autour de la fantasy, donc à la médiathèque. Et avec nous, on a quatre personnes et mon téléphone portable. Feu mon téléphone. Je vais commencer par celui qui est complètement à votre droite.
Feu mon stylo, si on va y arriver.
Frédéric Fromanti. Alors Frédéric, il est libraire spécialisé à Grenoble. Donc lui, il baigne pleinement dans la science-fiction et la fantasy puisqu'il en vend tous les jours. Ça fait au moins 15 ans, Fred ?
Ça va bientôt faire 15 ans, ouais. Fait bientôt 12 ans que la librairie existe en tant que librairie physique, et 14 ans que l'entreprise existe.
Ouais, parce qu'en plus, Fred, il a la particularité non seulement d'être physiquement présent à Grenoble, mais aussi de faire différents salons, donc d'être libraire itinérant.
C'est ça, c'était l'ADN de départ de la librairie qui était ambulante.
Juste à côté de lui, Marc Simonetti. Marc Simonetti, vous avez sans doute croisé ses œuvres, puisqu'il a illustré de nombreux romans. Alors, on le connaît notamment pour les illustrations du Trône de Fer. George Martin a dit que l'illustration du Trône de Fer que tu as fait était celle qui se rapprochait le plus de ce qu'il imaginait.
Et oui, voilà, j'ai travaillé avec lui, donc c'est normal.
Ouais, c'est sympa, quoi. Et puis aussi Terry Pratchett, Robinoff, Frank Herbert, ou bien encore Patrick Rothfuss. Et tu as notamment travaillé sur le dernier Valérian au cinéma avec Luc Besson.
Oui, absolument. Voilà. Non.
Et ben, tu vas peut-être nous raconter tout ça. Juste à côté de toi, Jean-Laurent Del Socorro. Jean-Laurent Del Socorro, alors jeune auteur, puisqu'il n'a fait que deux livres pour l'instant, mais il va en faire plein bientôt, avec Royaume de Vent et de Colère et Boudica. Lui, son truc, c'est plutôt la fantasy historique. Enfin, on peut même dire presque l'historique avec une touche de fantasy.
Voilà, on est presque sur le schéma inverse où l'historique est très présent, puis il y a une part onirique, plus fantastique presque que fantasy.
Alors jusqu'à présent, on avait Grenoble, on avait Annecy, on avait Chambéry, et puis bah, il nous fallait quelqu'un d'ailleurs, une caution un petit peu. Donc, on a demandé à Jean-Luc Bizien, auteur de Polar, vous connaissez peut-être sa série Crotale, mais aussi de fantasy et de fantastique. Alors en jeunesse, il y a L'Appel du Dragon, il y a plein d'autres titres, tu étais également directeur de collection, scénariste pour les jeux de rôle, et tout un tas d'autres choses dans le monde de l'édition. Moi, je vous propose qu'on a une heure et demie ensemble. Je vais leur poser quelques questions pour se mettre en jambes sur la fantasy. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à interagir. Et puis, si vraiment vous ne prenez pas la parole et qu'on a trop de temps, j'ai même un blind test pour vous. Voilà. Vous direz, j'ai fait un quiz, c'est dire. Je vais juste faire un petit tour de table pour demander à chacun un peu son rapport à la fantasy, les auteurs préférés, comment est-ce qu'il est tombé dedans. Fred, tu veux commencer ?
Ah, alors c'est une vieille histoire. Je suis rentré dans la fantasy par la science-fiction. À une époque où on faisait, en tout cas moi en tant que lecteur, je faisais pas du tout le distinguo. À 10-11 ans, c'est un peu tout pareil tout ça. Et les premières lectures, ça va être Le Seigneur des Anneaux. J'ai pas tellement compris grand chose parce qu'en fait j'ai lu dans le désordre. Les bouquin n'était pas disponible un peu pour un, voilà. Et puis, quelque chose qu'on faisait beaucoup avec mes camarades collégiens, c'est les livres dont on est le héros, où il y avait beaucoup de fantaisie. Donc c'était un peu un mix, c'est les premières lectures, c'est ça. Et après, les auteurs préférés, oulala. Alors comme libraire, j'en ai quelques-uns vraiment qui sont au pinacle. Il y en a un qui est assis là. En toute modestie, après il n'a plus savoir quoi dire. Il y a Jean-Philippe Jaworski, évidemment. Et puis, un paquet d'autres. Je ne vais pas tous les citer.
On y reviendra tranquillement. Marc, pareil, quelle est la porte d'entrée un petit peu en fantasy pour toi ?
Moi, c'est pareil. J'ai commencé par la science-fiction. Voilà, les vieilles collections de Présence du futur de mon père, donc il avait des Asimov et un des premiers trucs un peu fantasy, c'était plutôt de la science-fiction pulp, c'était les Elsprag de Gans, c'était les Z. Et le tout premier livre que j'ai lu, parce que je détestais les livres pour. Je me souviens, j'étais en maternelle. Le premier livre, c'était Stephen Wound, j'avais lu York. Voilà, c'était mon premier livre. Et après la fantasy, j'ai commencé par Moorcock, donc Elric, et je suis venu après sur Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Et après, mes auteurs préférés, il y en a plein. Donc, c'est dur à dire. Voilà. Il y a Glenn Cook, il y a Jean-Philippe Jaworski, il y a. Bon, il y en a 36. Donc, voilà, il y a George R. R. Martin, il y a Erickson, Shina Mieville.
Ah, c'est déjà un beau plateau.
Il y en a beaucoup.
Oui. Rien qu'avec ça, vous avez déjà. Du lourd. Jean-Laurent, même question pour toi, comment t'es tombé dedans ?
Alors moi, ça a été pareil, c'est plus une entrée par les classiques et d'abord la science-fiction. Alors le tout premier vraiment, ça a été Lovecraft, l'entrée par les nouvelles et plus le fantastique lovecraftien. Et donc tout ce qui était autour du mythe de Cthulhu, je crois que j'ai tout dévoré ado. Et après, ça a été Asimov, les nouvelles. Je me rends compte que j'ai commencé d'abord par des nouvelles, j'ai d'abord été un lecteur de nouvelles avant d'être un lecteur de romans. Asimov, puis après c'est resté sur Fondation, et puis sur la fantasy, pareil, Moorcock, et sur Stormbringer, sa saga, qui est récemment adapté en BD d'ailleurs.
Si oui, par Romain Rechté et Julien Blondel.
Ouais. Et on en parlait tout à l'heure, Roger Zelazny avec La Neuf Prince d'Ambre, que je ne saurais vous conseiller si vous n'êtes pas lecteur de genre, et si vous voulez vous y mettre, La Neuf Prince d'Ambre, c'est juste un bijou. Et après, voilà, pour les auteurs préférés, c'est toujours compliqué en tant que lecteurs un peu compulsifs. Il y a un peu les coups de cœur du moment, c'est toujours compliqué. Moi, j'ai lu assez récemment La Servante écarlate, je me rends compte que Margaret Atwood, c'est juste une tuerie. Bon, Jean-Philippe Jaworski, pour la troisième fois, c'est vraiment très très bien. Enfin voilà, difficile. Ouais.
Jean-Luc, à toi.
Moi, je... Ça marche pas, ça.
Voilà. Si, on sort. Si.
Moi, j'ai un parcours un peu... Mais bon, je suis plus âgé que ces garçons, hein, donc je vais vous parler de choses qui ont lieu dans le dernier siècle, le précédent millénaire. Je suis né au Cambodge, et là-bas, on n'avait pas la télé ni la radio, mais par contre, mon père nous ramenait Spirou, Tintin, Pilote tous les jeudis, et puis on allait énormément au cinéma. Puis après, j'ai grandi aux Comores, même punition, même motif. Donc j'ai surtout été baigné par des images, et puis un jour, j'ai croisé dans une librairie... on va parler de Moorcock, c'est-à-dire qu'il y avait un portrait d'Elric et de Stormbringer au-dessus de la tête, et j'ai voulu savoir ce que c'était. Et puis, bizarrement, ça m'a rappelé ce que ma grand-mère me lisait, parce que j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui m'a lu l'Iliade et l'Odyssée quand j'avais 5 ans, version expurgée, hein, mais vachement bien, et cet imaginaire-là, je suis tombé dedans, et, j'ai fait un peu le parcours inverse, c'est-à-dire qu'après, à l'adolescence, il y a eu les Bob Morane, il y a eu les Doc Savage, j'ai eu tous ces trucs-là. Et puis, j'ai un peu laissé tomber. Il a fallu attendre l'école normale et l'ennui de l'internat pour découvrir sur une étagère une vieille boîte de Donjons et Dragons et quelques bouquins. Et donc, repiquer au truc et là, redécouvrir. Alors, même chose, Zelazny, pour moi, si c'est pas Dieu, c'est pas loin. Et puis, Moorcock. Et puis, voilà. Et les Neuf Princes d'Ambre, effectivement, je rejoins mon camarade. On vous fera une petite ordonnance tout à l'heure, vous devriez vous en sortir. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. En revanche, je note que bientôt, l'un de mes préférés que j'ai jamais lu, c'est Jean-Philippe Jaworski. J'ai bon, là ouais. Non, c'est aussi un truc franco-français. on s'est longtemps, mais c'est comme pour le polar, on s'est longtemps interdit d'y aller parce qu'on pensait que les anglo-saxons, c'était leur chasse gardée et qu'eux, ils savaient faire. Et j'ai découvert qu'il y avait toute une génération d'auteurs français qui faisaient des choses magnifiques et qui s'étaient totalement approprié la chose. Donc voilà.
Et Gabory, Colin, Claude Zer,
toute la bande de Zozo qui sont sortis du jeu de rôle dans les années 90, qui ont fait des choses formidables après. Hein.
Pével.
Ah oui.
Pével, tiens, Pével.
Est-ce que ce sont des noms qui font écho chez vous? Zelazny, Bradbury, Yanko.
Leiber.
Leiber, ouais. Super. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette littérature au point d'avoir dépassé le cap du lecteur pour en faire un métier, pour le coup, soit devenir écrivain, soit devenir libraire, soit devenir illustrateur?
Ah, grande question. Alors, moi, si je suis devenu libraire, c'est parce que j'aime les livres. Hein. Voilà, c'est bête, hein, mais c'est ça. Et le fait que mes passions de lecture soient l'imaginaire au sens large, en fait, c'est parce que je suis feignant. Je me dis, je vais vendre les choses que je connais bien. Voilà. J'avais une certaine culture et j'aime bien la faire passer. C'est la seule raison.
Et bien, pas mal. Et pour toi, Marc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être illustrateur et avec une spécificité beaucoup d'imaginaire?
Alors, j'ai toujours aimé dessiner, donc pour moi, c'était vraiment pas une. C'était presque une évidence, même si j'ai fait ingénieur avant et puis j'ai dû changer de carrière après, en me rendant compte que c'était pas ce que je voulais faire. Mais après, c'est facile pour illustrateur, les seuls livres qui sont illustrés, c'est les livres d'imaginaire. Donc il n'y avait pas le choix en fait. Après, je lis tout, hein, donc. Mais voilà, c'est aussi bête que ça. Après, j'ai la chance que j'adore la fantasy et les science-fiction. Mais...
Oui, coup de bol.
Coup de bol.
Plus une collection sur la peinture ou le tricot.
Exactement.
Et finalement, c'est la fantasy.
Voilà.
C'est bien fait, quand même. Jean-Laurent, un peu même question pour toi.
Je ne saurais pas retrouver l'origine de ça, parce que c'est vrai que je suis un gros lecteur. Je ne suis pas forcément un lecteur que de genre. Peut-être parce que je suis peut-être un peu un feignant, parce qu'en fait je fais des livres historiques, mais je me dis, si je me plante et que je me fais engueuler, je vais mettre un bout de fantastique dedans, comme ça je pourrais toujours dire que c'est pas vraiment. Je sais pas, c'est vrai que l'entrée en fait de l'épaissier étant d'abord historique moins que fantasy, la question s'est posée notamment sur le premier livre, qui est un livre historique sur les guerres de religion. Est-ce que j'en fais un récit purement historique ou pas? Et puis je crois que j'ai quand même l'attachement au genre. Il y avait quelque chose de revendicatif de dire la pop culture elle émerge, j'ai été baigné dedans, à un moment elle a été décriée, entre guillemets, elle était même un peu pointée du doigt. Je ne vais pas la lâcher maintenant, et c'était une façon de marquer le coup, de dire que ouais, moi, je viens de là et je la soutiens. Quoi.
C'est pareil pour Boudicca, du coup. T'as rajouté un petit bout, mais.
Ouais.
Un tout petit bout, quoi.
Alors, Boudicca, c'est pareil, c'est encore plus. Si on peut en faire encore moins, c'est. Oui. Boudicca, c'est historique, hein. Enfin, c'est historique. C'est romanesque, mais c'est un roman historique. Après, il y a une part d'onirisme, mais finalement, pour avoir l'air des romans historiques, on se retrouve complètement dans les mêmes dimensions. Ouais.
Bon, donc, je note quand même que ce sont des gens qui travaillent dans l'imaginaire. Par coup de bol, hein, par fainéantise.
Pas le choix.
Et pour toi, Jean-Luc,
moi, j'ai eu la chance de publier dans tous les genres. C'est-à-dire que j'ai fait de la littérature générale, blanche, donc. Beaucoup de policiers, dont de l'historique. Je ne fais pas vraiment de différence, en fait. J'écris des histoires, et puis après, l'éditeur le casse l'histoire dans une catégorie. Ce qui m'intéresse dans la fantasy, c'est que, pour le coup, on n'a pas de limite. On se laisse porter par son imaginaire et on peut... J'ai coutume de dire qu'il y a des frontières aux différents genres et que dans la fantasy, on est un petit peu des explorateurs. Donc on peut repousser les frontières, ouvrir des portes, aller voir un petit peu ailleurs. Le seul boulot consiste à rester quand même un peu cohérent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on peut tout se permettre qu'il faut faire n'importe quoi. Tu parlais de cohérence historique, je suis passé par les griffes des correcteurs 10-18. Donc j'ai moins ça en fantaisie. C'est juste une anecdote. J'ai fait un bouquin qui se passe pendant l'exposition universelle de 1890. À un moment donné, le héros prend une calèche, il remonte le quai des Saint-Augustins, il pique à gauche, il prend la deuxième à droite et il va à l'exposition universelle. Et la correctrice me barre ça et met troisième à droite. je jure que c'est vrai. Et donc, j'avais acheté sur eBay de haute lutte le guide Johan, équivalent du guide vert de 1890, donc de cette année-là, avec les plans que les Parisiens avaient sous les yeux. Donc, un peu bête et discipliné, je reprends mon plan, puis vexé aussi. Je recompte, c'est bien la deuxième à droite. Donc, je barre la correction, je dis non, deuxième à droite. Et le lendemain, il y a un type avec un casque, un coursier, qui arrive avec une petite pochette violette que j'ai conservée, avec marqué dessus « Pour Bizien », souligné trois fois. Avec l'historique de la rue, il ne pouvait pas la prendre, elle était en travaux pendant 15 jours. Ah, je vous jure que c'est vrai. Vous savez quoi? Avec les dragons, on m'embête moins.
C'est le même processus d'écriture pour toi, quand tu fais un polar ou quand tu fais une aventure?
C'est exactement la même chose. J'ai tendance à croire... Et c'est pas ni de l'ego déplacé, ni de la fausse modestie, qu'il n'y a pas vraiment de genre. Pour moi, il y a les bons bouquins et puis ceux qu'on n'aime pas. Mais c'est même pas les mauvais bouquins. Je pense que pour faire un livre, il faut un auteur et puis il faut un lecteur. Et que le même livre peut vous tomber des mains, ça m'est arrivé aussi. Et puis 6 mois plus tard, ou 1 an, ou 10 ans plus tard, vous le reprenez, vous ne comprenez pas parce que vous trouvez que c'est une merveille. Ça correspond à un moment donné. Non, j'ai exactement la même approche et je m'aperçois que l'âge venant, j'ai tendance à les construire, enfin en tout cas à les aborder de la même façon. Voilà. J'ai besoin de partir des personnages d'abord et de les coller dans un univers que je m'approprie. Donc c'est beaucoup de travail en amont et après je me laisse porter par les personnages.
On a parlé des livres. On a la chance d'avoir Marc Simonetti, du coup on va parler couverture et illustration un petit peu. Et je voulais... La fantasy comme la science-fiction a un genre très marqué sur les couvertures, vous avez toujours une illustration. Bon, aussi dans le tricot, mais il y a moins de liberté pour le coup pour les illustrateurs, sauf dans Maison et Travaux peut-être, enfin, c'est un autre problème. Quelle est pour vous en tant qu'auteur l'importance de la couverture, parce que du coup c'est la visualisation de quelque chose que vous avez imaginé.
Tu veux encore une anecdote? Je trouve... non mais c'est on vit dans un monde merveilleux en France. Vous savez, les auteurs de littérature générale sont considérés comme des écrivains et les autres comme des oseaux qui écrivent des petites histoires parce qu'ils n'ont jamais réellement quitté le monde de l'adolescence. À partir du moment où on a envie de parler de dragons ou de magie ou même de romans policiers, on est toujours un peu suspect. Mais alors il y a pire. C'est l'illustrateur. Chez la plupart des éditeurs, l'illustrateur, c'est un garçon ou une fille qui n'a jamais quitté l'enfance, puis il a toujours des crayons. Sauf que pour nous, c'est extraordinaire. Enfin, c'est la fenêtre qui fait que d'un seul coup, le lecteur va s'arrêter devant un bouquin et va avoir envie de rentrer. Donc c'est primordial. Et donc l'anecdote, c'est en jeunesse, je sais pas pour vous, hein, mais... 95% du temps, l'auteur n'a jamais rencontré l'illustrateur. J'en veux pour preuve que tout à l'heure, j'ai bu un café et que monsieur m'a appris qu'il m'avait fait 3 bouquins. J'étais ravi de le rencontrer 10 ans plus tard. C'est chasse gardée. Il y a d'un côté les illustrateurs, de l'autre côté les auteurs. Et voilà, à part justement en fantaisie et dans l'imaginaire, où on a tendance à se rencontrer, à parler et justement à essayer de travailler ensemble. Mais pour les contrats, par exemple, en jeunesse, l'auteur a toujours un pourcentage, et puis l'illustrateur, il a un fixe, et puis voilà. Et un jour, je crée une série pour une maison d'édition, que je ne nommerai pas, c'est un satellite de chez Hachette, et c'est Rajo. Et je vais voir la directrice éditoriale de l'époque, je dis, voilà, on a travaillé une série pour les enfants avec un illustrateur, il y a un problème, c'est comme on l'a vraiment travaillé ensemble, j'aimerais l'associer, et j'aimerais donc qu'il ait un pourcentage. Et là, ça crée un problème. Donc, on me dit, bon, bah oui, mais bon, les autres, ils ne sont pas payés au pourcentage, ça va faire un précédent, on va lui filer 1%. Je dis, mais moi j'ai 5, ça fait 6, on peut peut-être faire 50-50. D'accord, donc, ok, 50-50, ça marche, donc on va faire 2 et 4. Et il a fait, non, c'est 3 mois de négo, hein, pour arriver à 50-50, mais à une condition, c'est que vous en parliez ni lui ni vous, parce qu'il ne faudrait pas que ça se sache. Alors que ça me paraissait juste naturel. ils amènent un univers, ils viennent l'enrichir, ils viennent le rendre immédiat pour le lecteur, surtout en jeunesse, et bon, et en adulte avec les couvertures somptueuses qu'on voit régulièrement. Il faut, je crois, continuer à essayer de défendre ça, parce que sinon on va arriver à quelque chose de formaté, de un peu regrettable, quoi.
Et sur le côté, ce que tu as imaginé prend corps, prend vie visuellement parlant.
Alors oui et non. J'ai fait 70 albums, je crois, pour les enfants. Et à chaque fois, j'ai vraiment, hein, c'est pas une posture, à chaque fois j'ai eu, en découvrant le bouquin, soit parce qu'on me l'avait envoyé par la poste, soit en librairie, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le poster, c'était un sentiment curieux de me dire, tiens, c'est pas mon bouquin, mais c'est autre chose, mais c'est quelque chose de formidable, parce que c'est toujours enrichi, c'est toujours quelque chose de plus qui est rapporté. J'avais une vision très précise de la chose, et puis c'est formidable de voir que quelqu'un se l'est approprié et a respecté ce qui est écrit pour le tirer vers le haut, pour l'enrichir. Enfin, c'est comme ça que je vois la chose. Et puis petit à petit, je me suis mis, en fait j'adore le dessin, l'illustration, je me suis mis à travailler réellement avec les illustrateurs. Et là, ça a été formidable. Il n'y a qu'un seul truc que je n'ai pas encore fait et je rêve de trouver le temps, c'est la BD, pour pouvoir justement vraiment être là, participer au processus et voir la chose se construire. Ça, c'est fabuleux.
Et pour toi, Jean-Laurent, le rapport à tes deux couvertures, trois couvertures, oui.
C'est toujours délicat parce que vis-à-vis d'Under, parce que autant je ne sais pas si après comment on s'en sort, on a la capacité au moins technique d'écrire un livre. Mais une couverture, c'est différent. Donc on voudrait se l'approprier, se dire et donner notre avis, mais finalement, c'est notre métier. La couverture, c'est certes une illustration, mais on touche là le domaine du commercial. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu deux expériences différentes sur les couvertures, mais globalement, que ce soit l'apanage ou l'éditeur, ben, ça ne me choque pas plus que ça. C'est notre métier, c'est notre relation. C'est pas parce qu'on a envie de faire un dessin, une visualisation, que ça aiderait finalement le livre. Ce serait peut-être très proche de ce qu'on aurait en tête, c'est ce qu'on voudrait qu'il y ait dessus. Mais c'est peut-être que ça desservirait le livre, et peut-être que, entre guillemets, commercialement, qui n'est pas un gros mot, ça pourrait aussi le nuire. Et globalement, donc, ce qui se passe, parce que je vois qu'effectivement il y a des façons très différentes de fonctionner, moi ce que j'ai vécu, c'est en interne, l'éditeur et l'illustrateur discutent, il y a des propositions qui sont faites, que je valide, et il y a une image finale qui sort. Donc finalement, on n'est pas si exclu que ça, on a le droit de dire non vraiment si l'image ne nous convient pas. On a au moins l'orientation, en fait, de l'illustration qui nous est donnée. Donc je trouve que c'est plutôt ça, en fait. Et sur la deuxième, donc celle de Boudica, où elle a été plus intégrée directement avec le directeur artistique, donc la personne qui suivait l'illustrateur et la création, j'ai justement fait le recul, par moment, de dire, ok, le directeur artistique, il a 200 bouquins à son actif, s'il me dit que ça, c'est pas bon, voilà. Il y a des moments où je mettais mon idée de côté, je le laissais aller dessus. C'est compliqué, c'est un autre métier, ça m'a permis de mettre le doigt dessus. Enfin, ça, tu dois aussi être
en permanence dedans. Toi.
Quelle maison d'édition géniale, vraiment.
Et pour toi, Marc, alors toi, tu es de l'autre côté, pour le coup.
Moi, je suis de l'autre côté.
On te demande d'illustrer des romans, comment est-ce que tu travailles ?
Il y a tous les cas de figure, en fait, parce que j'ai fait plus de 400 couvertures de romans. Sûrement plus, ouais. Je ne les ai pas comptées, mais... Et j'ai tous les cas de figure, même en France, il y a... Donc, mon processus habituel, ce que j'essaie de faire la plupart du temps, c'est de lire le livre d'abord. Parce que illustrer, pour moi, ça veut dire mettre en valeur le texte. Et c'est pas évident pour plein d'illustrateurs. En général, ils se contentent d'un brief et de travailler à partir de ça. Mais on n'a pas du tout la saveur du livre quand on se contente de juste avoir un résumé. Donc, j'essaie de lire le livre, ou quand j'ai pas le temps, de lire au moins quelques chapitres pour vraiment savoir de quoi ça parle. Et ensuite, mon approche, c'est de me placer en tant que lecteur, en fait. Et comme j'ai lu pas mal de livres, de voir qu'est-ce que ce livre a différent des autres et qu'est-ce qui pourrait amener justement à le vendre auprès d'autres lecteurs. Donc j'essaye de faire une image qui correspond à ce que moi j'ai aimé en tant que lecteur et qui pourrait parler à d'autres lecteurs. Donc j'essaye d'orienter l'image pour que ça corresponde quelque part au public comme si le futur lecteur, c'est un peu un ami à qui les gens. J'essaie de vendre le livre, donc ouais, moi, il y a ça qui me plaît dedans. Donc voilà, j'essaie de, la plupart du temps de ne pas trop montrer les personnages, parce que je trouve que c'est quelque chose qui... chaque personne, quand elle lit le livre, elle va s'imaginer le personnage d'une certaine façon. Donc j'essaie plutôt de montrer l'univers, parce que c'est souvent par les univers qu'on arrive à donner le ton du livre, plus que par un personnage. Et voilà, après, la relation avec l'auteur, ça peut être... des fois, je réclame d'avoir un retour de l'auteur quand les livres sont très... sont très pointus, très très denses, quand il y a 1500 pages et que j'ai pas le temps de lire tous les détails. Des fois, j'aimerais bien avoir le recul de l'auteur, mais j'ai pas forcément accès. Des fois, j'ai le brief de l'auteur et l'influence directe de l'auteur, et c'est une catastrophe parce que c'est un métier de faire une image correcte. Et en général, l'auteur, certains auteurs veulent tout le livre dans l'image, et ça fait des trucs catastrophiques. Voilà, donc il y a vraiment... Tout. Et des fois, j'ai une liberté totale et je fais ce que je veux. Donc voilà, on peut faire des trucs très conceptuels, des trucs très... Il faut s'adapter aussi au langage de chaque maison d'édition, puisque par exemple, les éditions de Bragelonne, c'est un certain type de couverture. Puis après, les éditions Pocket, quand c'est plus science-fiction, c'est pas le même langage en fait. Voilà, il faut s'adapter au public, à l'âge visé, etc.
Et une petite question, parce que tu as notamment illustré Terry Pratchett, oui, hein, pour Pocket, qui avait un univers visuel sur les couvertures avec Kirby qui était très fort. Comment toi tu t'es placé avec cet héritage visuel? Donc on imagine, Terry Pratchett fait une vingtaine de romans en France, c'est toujours le même illustrateur. Mark Simonetti reprend pour Pocket, pour donner une autre couleur aux couvertures. Comment est-ce que tu as travaillé avec déjà ce poids assez fort?
Alors moi j'avais pas tellement la... J'étais un énorme fan du livre. Ce qui s'est passé, c'est que Pocket a voulu rééditer avec des nouvelles couvertures. Et ils en ont fait une autre avec un auteur de bande dessinée comique assez connu, qui n'avait jamais lu du Pratchett. Et du coup, ils lui ont fait faire les trois sorcières. Donc il avait fait trois sorcières identiques avec un dessin. Et donc ça avait fait un tollé absolu. Et j'avais appelé l'éditrice, que je connais bien parce que je travaillais pas mal avec elle, en disant s'il te plaît. Ces couvertures-là, je les veux. Je vais faire un essai gratuit, si vous voulez, ce que je fais jamais. Et je le fais, c'est là, foison de prix. Et donc, ils m'ont fait faire un essai gratuit sur je ne sais plus quel livre. Ça avait marché, et donc voilà. Et du coup, c'était un énorme piège pour moi, parce que j'étais un énorme fan de ces livres. Et je me suis retrouvé à devoir faire trois couvertures par semaine, sans brief, parce qu'ils ne les avaient pas lus. Donc je devais, chaque semaine, lire trois livres. Sortir une couverture par jour presque, et j'avais des retours comme... Donc j'essayais à chaque fois de trouver une idée marrante du livre pour que ça soit un gag visuel qui reprenne l'esprit du livre, avec plein de petites idées qui viennent à chaque fois du livre. Donc tout ce qui était un peu visuel, j'essayais de le reprendre et de le mettre dans la couverture, et j'avais des retours comme il faudrait rajouter un ou deux personnages, ou alors j'aime pas le bleu. Donc ça a été... Donc je les ai faites, les couvertures, et j'en suis pas super fier parce qu'au final j'ai pas eu... j'avais pas le temps qu'il fallait pour faire un résultat correct. Et quelques années plus tard, j'ai eu la chance de faire le calendrier officiel Pratchett en bossant pour lui directement, et une couverture pour la maison d'édition anglaise. Donc je suis passé de 3 jours de délai à 3 mois de délai. C'est pas la même qualité de travail, mais du tout, du tout. Voilà.
C'est combien de temps une couverture pour se rendre compte? J'imagine que ça varie, mais
ça varie,
globalement.
Bah, mes débuts, je mettais 2 semaines par couverture.
Ouais.
Le tarif français, c'était en général, c'était 500 € la couverture, 2 semaines, et après on avait des charges. Voilà. Donc c'était difficile d'en vivre au début, et puis après j'ai eu une période où je suis monté à 1 jour, parce que pour des considérations financières. Et puis là, je suis bien redescendu, parce que voilà, la qualité ne suivait pas. Maintenant, c'est dans les 3 jours, mais comme j'en fais plusieurs en même temps, ça s'étale, ça me laisse le temps de revenir dessus. Et puis Mais des fois, le temps que je passe avant de faire la... Enfin, le temps de trouver l'idée de la couverture est plus important que... Voilà. Si l'idée est bonne, après, ça fonctionne. Faire une image pour une image sans rien derrière, ça ne marche jamais. Trouver le bon ton.
Est-ce que Fred, toi qui es libraire, t'as pas l'impression que les couvertures ont quand même véritablement évolué sur ces dernières années, en s'améliorant globalement?
Si, il y a des... Enfin, si je me place de mon antériorité de lecteur avant d'être libraire, il y avait certaines collections où on avait toujours le même illustrateur, je pense au Pocket notamment, avec Sumac, ou bien un certain nombre de livres d'auteurs qui étaient toujours illustrés par Casa, par exemple, et ça a formé beaucoup de lecteurs à repérer les codes graphiques de ce genre. Et je dirais maintenant, quand un éditeur essaye de s'éloigner un peu de cette image forte de la couverture, à chaque fois, bah, ça foire, quoi. Ça marche pas. La plupart du temps, en tout cas, ça vend moins bien. Je vois Jean-Luc qui fait la moue. Mais il y a une identité graphique qui est essentielle sur la fantasy, particulièrement, enfin la fantasy ou la science-fiction. Quand ça sort du lot, c'est difficile, quoi. Après, faut bien parler du bouquin pour arriver à trouver le lecteur.
Jean-Luc, tu veux dire quelque chose?
Non, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Laurent il y a un petit moment déjà. C'est moi, je suis complètement d'accord sur cet aspect commercial. C'est juste que il y a les éditeurs qui jouent le jeu et ceux qui se posent pas la question. Quand on voit que certains n'avaient même pas lu les bouquins qui ont édité, on marche un peu sur la tête. Donc c'est genre, c'est sympa votre truc. J'aime pas le bleu, mais j'ai eu droit une fois à un illustrateur qui amène une double planche où il y a, je ne sais plus, 80 ou 100 personnages. C'est un jeu dans l'image où les enfants doivent retrouver des persos. Et la seule critique, c'est on nous montre un gars au cinquième plan. Et pourquoi vous lui avez fait une chemise jaune? Parce que j'aime pas le jaune. Ouais. C'était la seule... Bon, travailler dans ces conditions-là, c'est compliqué. Mais pour l'Appel du Dragon, par exemple, j'ai reçu plusieurs propositions et j'étais ravi, en plus, à l'arrivée, de découvrir qu'il y avait un dragon en vernis que je ne pouvais pas voir sur le PDF. Donc il y a des choses comme ça. Et voilà, le seul fait de voir les choses en construction et d'y être associé, c'est formidable. C'est ça que je voulais dire. Tandis que découvrir un bouquin à la fin sans rien avoir vu, sans avoir eu la chance de rencontrer l'illustrateur, savoir que lui-même a été vaguement briefé parfois en disant voilà, il nous faudrait écouter, mettez-nous ça, ça, ça et ça sur la couverture. Là, effectivement, on est en commercial, mais j'ai l'impression que ça va desservir le truc à l'arrivée, quoi. Tandis que faire un tout petit peu confiance... Quand je travaille, j'ai pas d'ego. C'est-à-dire que je crois que l'éditeur connaît son boulot et que c'est lui qui va permettre au bouquin d'exister et d'être le meilleur possible. À partir de là, je suis prêt à tout écouter. Et je sais que, même si je râle, de toute façon, il aura raison. Donc, il faut y aller, mais... Être simplement associé et pouvoir échanger et participer à ça, c'est de plus en plus rare, hélas, aujourd'hui. Ça devient, c'est un truc sur lequel j'ai envie de continuer à râler. J'aime bien râler.
Fred, tu voulais ajouter un truc?
Non, c'est bon.
Est-ce que vous avez l'impression, comme pour les couvertures, donc je parlais aussi des couvertures, parce qu'effectivement, ça a formé un peu l'œil des générations de lecteurs. Les Schumach, les Casa font partie des grands illustrateurs de fantasy et de science-fiction. Est-ce que vous avez l'impression que sur la fantasy, puisqu'on en parle ce soir, le genre lui-même aussi a évolué avec peut-être un petit peu plus de diversité qu'il y a par rapport aux 15-20 dernières années dans les textes même, vous qui êtes tous grands lecteurs?
Il y a plus d'auteurs français déjà. Ouais. Alors, on l'a dit tout à l'heure. Il y a eu toute une période où... quelques personnes qui ont émergé, il y a certaines maisons d'édition qui se sont créées justement pour publier des auteurs français, avec des succès commerciaux plus ou moins pas évidents. Et après, ceux qui restent sur la longueur, souvent ils évoluent dans leur écriture, ils ne font pas que de la fantasy, enfin, c'est l'impression que j'en ai.
Et qu'est-ce que ça change d'avoir plus d'auteurs français désormais?
On a un panel un peu différent, je dirais. Il y a une patte, en fait, quand on lit des anglo-saxons, il y a une certaine... on le voit quand on a des auteurs allemands ou espagnols, ou japonais, ou, enfin, peu importe, il y a un fond historique ou mythologique qui est un peu différent. Et puis une façon d'écrire, enfin, bon, voilà, une culture, quoi.
Et je pense que c'est de plus en plus vrai. C'est-à-dire, c'est vrai que quand les premiers auteurs français ont commencé à émerger, c'était finalement des trilogies, des héros qui se révélaient, un grand méchant à la fin qui avait à battre. Je caricature un peu, mais il y avait ça qui venait un peu effectivement de la sacro-sainte trilogie de fantasy anglaise, qui existe toujours, hein. Et c'est vrai que pour plein de raisons, il commence à y avoir des spécificités, alors ce qu'on appelle aujourd'hui des spécificités françaises, qui n'en sont pas forcément, à mon avis, mais des romans en un seul volume, des thématiques très personnelles, pas forcément des héros qui se découvrent, mais des gens de tous les jours. Enfin bref, ça a commencé, les lignes se sont commencées un petit peu à changer, même si aujourd'hui on revient, j'ai l'impression, même dans les écrivains français, à la trilogie. Il y a quelque chose autour de un moment, il faut être passé par la trilogie pour avoir, je ne sais pas, une reconnaissance, on se sent légitime quand on a tombé sa trilogie. Voire maintenant, comme les anglo-saxons on en parlait de la nouvelle série que tu vas illustrer, de livres malaisiens des Glorieux Défunts qui sont sur X volumes, 10 volumes et qui continuent. Ben, en France, on voit apparaître des récits à 2, 3, 4, 5, 10 volumes à leur tour. On revient un petit peu à cette, entre guillemets, c'est pas que ça, hein, je caricature, on essaie de refaire de ce que fait l'anglo-saxon, alors que je trouve qu'on avait des spécificités plus fortes il y a encore une dizaine d'années. Il me semble, hein, c'est vraiment à titre personnel de lecteur. Là.
Et en termes d'imaginaire, vous n'avez pas l'impression que ça a explosé avec parfois de la fantasy celte ou de la fantasy galloise, ou en allant chercher des imaginaires et des mythes un petit peu différents. Je pense à Thomas Day avec le Japon, par exemple. Je pense à Nathalie Hugo avec les Gallois.
Moi, je pense qu'il y a l'explosion de la pop culture derrière. C'est-à-dire, je pense que l'explosion, par exemple, du style de steampunk qui revisite la fin 19e, ambiance Angleterre, mais avec justement, c'est très visuel, avec tout. Et si le charbon avait fait la révolution industrielle et pas l'électricité, donc des visuels vraiment très chargés, ainsi de suite, très victoriens. Et ça s'est retrouvé après dans la fantasy. Je pense que en fait, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est assez drôle, c'est ça vient plus de la littérature même. Je pense que ça vient d'autres médias. Je m'explique, de même façon que le steampunk, c'est d'abord une communauté autour de plein de choses, de la musique et ainsi de suite, et la littérature finalement l'a accompagnée, même si c'est né en littérature. Je pense par exemple sur en young adult, tout ce qui est dystopie qui existait depuis des années, c'est passé dans la littérature jeunesse et young adult, mais le futur proche, ça commence à revenir dans la littérature et ainsi de suite. Le cinéma fait des cartons avec la SF. On a à nouveau des auteurs de SF qui sont peut-être plus mis en avant. J'ai l'impression que finalement, la littérature de genre est aujourd'hui plus en réaction qu'en proposition. Mais là aussi, hein, c'est un avis de Beaucière.
Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je trouve que... Enfin, mais je pense que j'ai un avis très, très incomplet, très partiel du domaine, mais j'avais l'impression qu'il y avait les bons livres de fantasy quand j'étais jeune, et les livres qui copiaient le Seigneur des Anneaux en faisant la version avec les nains, les elfes, et à chaque fois on avait une histoire un peu bête, manichéenne, avec des elfes, des nains, des dragons, et il y avait les livres qui sortaient du genre, comme Zelazny, comme Moorcock, et j'ai l'impression que maintenant, voilà, ça s'est plus étoffé, que chaque auteur essaie de trouver quelque chose de plus original, même si David Eddings, ça remonte aussi, c'était assez original aussi. Mais voilà, j'ai l'impression qu'avant, il y avait quelques livres qui sortaient du lot, et il y avait le grand flot, et maintenant, le flot, c'est un peu tari pour tout ce qui concerne, même si on a encore des elfes, ou assimilés, mais voilà, c'est peut-être, je trouve que de ce côté-là, ça a gagné en qualité, quand même.
On s'est émancipé de Tolkien, de Conan, et des grands personnages.
Ouais.
Jean-Luc, comment tu regardes ça, toi ?
Pas forcément émancipé. Je pense que l'illustration et le texte sont un peu comme la musique. Do-ré-mi-fa-sol, là, 6, 7 notes, je crois. Et on a fait des millions de morceaux avec. Je crois que chaque auteur a... Ce qui fait que ça nous parle, c'est un tempo, c'est une musicalité, c'est un thème. Je crois vraiment à la spécificité des cultures. Quand on lit un roman japonais, on est très souvent dans du contemplatif. On a l'impression qu'il ne se passe rien, il se passe des millions de choses. Et on est embarqué par une espèce de poésie, un rythme différent. Si vous êtes amateur de polar, vous faites la différence entre un... Même en le lisant à l'aveugle, hein, si on vous cache le titre et l'auteur, vous saurez tout de suite si vous avez affaire à un thriller américain ou à un suédois. Je vous donne un indice, hein, certains ont 6 mois de nuit et de jour, ils ont plus de temps. Non mais c'est ça, et en France on s'est approprié le truc, ce qui fait que Tolkien invente en 36, je crois, le Seigneur des Anneaux, avec des tas de choses, c'est un philologue, il y met des tas de choses, et il y a une vraie profondeur. Maintenant je vais faire un coming out, j'ai jamais réussi à le finir. J'arrive toujours au poney fringant, j'en ai 4 éditions à la maison, illustré, pas illustré, poche, grand format, et il faut 190 pages pour arriver au poney fringant, et tout le monde me dit, t'es con, c'est là que ça démarre, ouais, mais j'en peux plus. C'est bien, c'est, voilà, c'est mais alors que
c'est pas grave, hein. On l'a lu plusieurs fois pour toi.
Alors que les, voilà, bah, tu vois, chacun, on a chacun sa croix. Hein. Alors que d'autres se sont réemparés, et je crois qu'il y a presque des figures imposées. J'ai pas la prétention d'avoir inventé les nains, les dragons, et c'est juste que ça fait partie de cette arithmétique-là, et qu'on peut s'en servir et qu'on peut se l'approprier. Et je crois que, de même qu'on a une école d'illustrateurs français qui sont fabuleux, les auteurs sont en train de faire du neuf avec du vieux, dans la mesure où ils réinterprètent les grands mythes et qu'ils vont plaquer leur propre personnalité dessus. Et c'est ce qui fait, je crois, le fait qu'on se soit autorisé à faire « Tiens, non, j'ai qu'un seul livre à écrire, je vois pas pourquoi je tirerais dessus. » En revanche, on a aussi un gros drame, c'est qu'on veut à la fois être très très différent, et puis, quand il y a un truc qui marche, c'est pas mal, quoi. Je rappelle pour mémoire qu'Harry Potter, en France, ça a marché qu'au troisième tome, et uniquement parce qu'on a fait le chemin inverse, et qu'on est passé de poche au grand format. Ça marchait partout ailleurs, et voilà, il a fallu qu'on suive, et au départ, tout le monde s'est dit, mais il faut être dingue, jamais les enfants suivront, vous vous rendez compte, un bouquin par an pendant 8 ans.
Voilà.
Donc, maintenant, on a le droit.
Est-ce que c'est dans la manière d'écrire, ou est-ce que c'est la spécificité des imaginaires? Quand on fait un thriller, une poursuite de bagnole à New York, c'est pas une poursuite de bagnole à Sarcelles, quoi. Il y a de facto une différence. Quand tu écris Boudica, Jean-Laurent, t'es chez les Celtes. Et donc finalement, est-ce que c'est le lieu de naissance de l'auteur ou le lieu dans lequel il inscrit son imaginaire pour raconter une histoire? Vous voyez ce que je veux dire?
Je sais pas si je m'exprime bien.
J'ai l'impression que plus le récit est sociétal, plus là où est l'auteur, en termes de société, est important. Oui, par exemple, dans mon cas, j'écris sur les Celtes. Je reste quand même un regard, déjà pas d'historien à la base, ce qui est quand même déjà un premier effet. Et puis, il y a quand même, j'y projette à travers mes personnages des problématiques qui sont très contemporaines, et très contemporaines, Europe de l'Ouest, on est d'accord, autour des personnages. De la même façon, mon prochain livre sur la guerre de sécession, je me suis rendu compte que je ne vais pas parler de la guerre de sécession comme en parlera un Américain, et je ne pourrai jamais le faire, parce que c'est de la même façon qu'un Américain ne peut pas parler de la Révolution française, c'est quelque chose qui est plus qu'un moment, c'est identitaire dans son inconscient culturel. Comment je vais aborder ça, moi, en tapant 40 bouquins? Je ne vais pas y arriver. Donc je vais avoir un regard particulier, qui est mon regard de français. Et je pense que pour la fantasy, c'est pareil. Je pense qu'on a un regard qui est... déjà, je pense que tous, on est de très gros lecteurs. Donc déjà, sur ce qu'on écrit au moins, on est baigné de références. Mais malgré tout, on a cette patte du ici et maintenant. Je pense que ça joue. Je pense, hein. Je me dis peut-être des bêtises. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je pense que les Américains ont un vrai savoir-faire. Tu fais la différence entre un auteur américain et un auteur anglais, par exemple. Ils se sont réappropriés les choses et ils sont allés vers une... ils ont réfléchi, comme toujours, en termes de technique et de rythme. Ils ont inventé ça. Ils ont inventé vraiment une nouvelle façon de mettre les choses en scène. Et que nous, juste au retour des choses, on a récupéré deux, trois trucs. Sauf qu'on a, on a cette histoire commune qui, voilà, ils ont à peine plus de 200 ans d'histoire. Donc ils font avec ça. Ils sont dans une espèce d'immédiateté comme ça. Et effectivement, ils peuvent te parler de la guerre de sécession parce que c'est avant-hier chez eux. Et puis nous, c'est encore trop frais. Je veux dire, on a eu le temps de digérer plein d'autres choses et de se les réapproprier. Mais les spécificités du genre aujourd'hui, elles sont communes à tout le monde. Il nous reste juste à continuer à creuser dans notre sillon et à y injecter tout ce qu'on veut. Je crois surtout que la fantaisie aujourd'hui, la fantaisie d'il y a 30 ans, c'était très souvent sur les mêmes thèmes. Le héros était une figure christique et il fallait une rédemption, il fait des tas de choses. Aujourd'hui, comme l'a très bien dit Jean-Laurent, c'est une façon d'aborder d'autres sujets. Voilà, c'est une façon d'amener le lecteur, sous couvert d'une bonne histoire, à réfléchir à une thématique donnée. Quand tu parles avec Henri Lovenbruck de La Moïra, il y a des elfes, il y a des loups, il y a des créatures un peu étranges. Tu racontes exactement la même histoire avec des Palestiniens et des Israéliens, bizarrement, tu plombes le propos. Et pourtant, ça n'est que ça. C'est une réflexion sur quelque chose d'extrêmement contemporain, quelque chose qui se passe de l'autre côté de la mer Méditerranée, dont on parle assez peu, et sous couvert d'histoires de fantasy, ben, tu peux aborder des sujets extrêmement, extrêmement prégnants, extrêmement passionnants, et amener... Alors, ça ne veut pas dire que la fantasy, c'est aujourd'hui une méthode assimile pour donneur de leçons. C'est avant tout... Je considère que si le lecteur a passé un bon moment, on a fait notre boulot. Et s'il a passé un bon moment et qu'en plus il se pose après les bonnes questions, on a encore mieux fait le boulot. Voilà.
J'ai un peu le même sentiment que vous. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une fantaisie qui s'est raccrochée au réel, c'est-à-dire qui parle de plus en plus du monde réel. Je pense à Alex Evans, par exemple, avec Sorcière Associée, qui a des zombies dans une usine, donc on préfère employer des zombies que des travailleurs, donc évidemment ça pose plein de questions. Est-ce que cette tendance-là, tu la constates, toi Fred, en tant que libraire, est-ce qu'il y a des tendances en fantaisie aujourd'hui qui fonctionnent mieux que d'autres?
On parlait de l'historique, quand même pas mal utilisé. Alors après, est-ce que c'est un biais qu'on a nous en tant que libraire d'aimer ce genre de choses? Ou est-ce que c'est parce que l'acheteur aime particulièrement ce genre de choses? C'est une bonne question. Bon, les lecteurs français aiment particulièrement quand c'est matinée d'histoire et plutôt bien matinée d'histoire. Après, peu importe la période historique, on peut recycler la fantaisie, on va dire, ou le thème fantastique dans n'importe quelle période d'histoire. Ça peut être la Seconde Guerre mondiale, ça peut être. Voilà. On va parler de fantaisie urbaine. Jean-Laurent qui a lâché le mot tout à l'heure.
Tu penses à quelle série, par exemple
J'ai pas de série en tête.
J'essaie de voir.
Il y en a une que je vois, mais je me souviens plus du titre. Oui. Voilà. La transposition est simple. Pour la Seconde Guerre mondiale, les elfes sont chassés, les nains servent de prolétaires, les ogres sont les guerriers allemands, enfin bref, ce genre de choses. Bon, ça, c'est assez basique, quand même.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression, par contre, il nous manque une production cinématographique, donc de mass media, régulière en fantasy de qualité? Je m'explique, quand on parle film de fantasy, je pense tout de suite à Willow, je pense tout de suite au Seigneur des Anneaux, éventuellement à Harry Potter. J'ai du mal à trouver de derniers films de fantasy qui aient fait des gros succès, mais peut-être que je me trompe. Hormis Game of Thrones, vous êtes d'accord?
Mais qui n'est pas un film.
Qui est une série, mais j'ai l'impression que c'est plus l'arbre qui cache la forêt.
Ah, les films, moi, j'en vois pas. Donc,
c'est la science-fiction.
Voilà, science-fiction.
Oui, science-fiction et fantastique se sont pris les plus grosses parts du gâteau et c'est compliqué en fantasy, mais Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on arrivait à faire de la SF avec des bouts de plastique et des 2-3 mat painting, et qu'aujourd'hui, on va peut-être, grâce au travail de Peter Jackson, reconsidérer la, et puis avec les progrès des ordinateurs, reconsidérer la fantasy et avoir de belles adaptations. Moi, je rêve de voir enfin Zelazny et les 9 Princes d'Ambre adaptés au cinéma, parce que j'ai rarement lu quelque chose d'aussi graphique et d'aussi fabuleux, mais que c'était inadaptable jusqu'à présent. Non, on peut commencer à parler de choses sérieuses.
Je crois qu'on a réussi à caser bien les princes d'ambre. Je crois qu'ils ont compris.
Non, mais tu vois, ça, c'est un truc. Je suis en train de le relire. Il faut qu'il y arrive.
Ouais, c'est pas.
Je ne sais pas si les droits ont été optionnés pour avec les princes d'ambre.
Si, ils ont été optionnés 2 fois en série télé. Ils n'ont jamais été montés. Et là, c'est un. Le scénariste Kirkman de. Comment ça s'appelle cette série de zombies. Walking Dead. Ouais, c'est le scénariste de Walking Dead qui a préempté les droits pour la série. Oui, plutôt bien adapté en plus.
Il est 7e Dan de Zelazny.
Non, j'ai un grand maître qui s'appelle Tim Ray, qui m'a rappelé que je n'étais qu'un jeune padawan. Mais c'est vrai que le je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, la science-fiction a pris la part belle sur la fantasy, parce que...
Ça coûte moins cher.
Tu penses que c'est vraiment ça?
Oui, parce que pour faire un décor de science-fiction, il y a besoin d'un couloir, et on met un gaz, on fait Alien.
Ah.
C'est simple, alors que pour faire de la fantasy qui rend bien, ben, s'accrocher déjà. Le budget du Seigneur des Anneaux était colossal. Et là, si on regarde Blade Runner, il y a une rue dans Blade Runner. Dans tout le film, il y a une rue qui a été faite en vrai. C'est toujours la même, et ils font dans un sens, dans l'autre. Et si on commence à regarder le pilier, on voit le même pilier pendant tout le film.
C'est pas vrai.
C'est que Brasile et Divergente, ça a été tourné à Noisy-le-Grand, dans le même quartier. Hein.
Énorme. Ah ouais, d'accord.
Pour faire Star Wars, ils sont allés à Tatooine en Tunisie. Ils ont gardé le nom pour le film.
Mais ils pourraient faire pareil avec un arbre, ils mettent un arbre.
Mais d'ailleurs, la fantaisie, la plupart du temps, quand on regarde la fantaisie, c'est des gars qui courent dans la forêt. Hein. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus
moins cher. Et si tu fais Tolkien, il faut donner un prénom à chaque feuille de l'arbre et ça commence à
faire.
Là, il y a Amazon qui a racheté les droits de l'Histoire des Anneaux, ils ont fait un seul. Mais bon.
Je crois que c'est une bonne nouvelle.
Je sais pas.
On en discute. Comment tu as travaillé sur Valérian? Tu as fait quoi exactement sur ce film-là?
Pas mal de choses en fait. En fait, il y a un jour, j'ai reçu un coup de téléphone. Il y a Luc Besson qui veut te rencontrer la semaine prochaine. Voilà. Et c'était 6 ans avant la sortie du film. Voilà. Donc, je suis monté à Paris et puis on était plusieurs illustrateurs. Il nous a raconté tout le film. Il connaissait toutes les scènes. Il m'a raconté. Il rigolait quand il fallait rire. Enfin, c'était assez impressionnant. Et donc j'ai été repris juste 2 ans avant que le film se fasse, pour travailler dessus. Et c'était une de mes meilleures expériences. Il m'a dit, bon, alors voilà, le film c'est ça, j'ai ces listes de sujets-là, tu fais ce que tu veux. Et puis je reviens dans une semaine. Et puis chaque semaine, j'envoyais mes images, il me disait, bah, ça c'est pas ça que je veux, tu laisses tomber, ça me plaît, bah, voilà. Tu fais... Donc voilà, j'ai fait des personnages, j'ai fait des décors, j'ai fait des véhicules. J'ai dessiné le bus du film, j'ai dessiné pas mal de parties de la grosse station. J'ai dessiné le village de coquillage. Hein. Donc j'ai dessiné le pistolet de Valérian. Donc il déteste les armes. Là.
Un truc. Et ça fait quoi après de voir ces dessins adaptés à l'écran? J'imagine que tu as vu le film.
Oui, je l'ai vu. Ouais. Bah, alors en fait, la première visionnage du film, j'ai pas vraiment profité du film parce que je regardais juste qu'est-ce que j'ai fait, ce qu'on voit. Il y a plein de designs qui sont passés, on les voit en 3 dixièmes de seconde et j'essaie de m'accrocher pour les voir. Voilà, non, mais c'est génial. Hein, c'est génial. Et la toute première fois où j'ai recommencé à travailler sur le film, donc il m'avait laissé une semaine. Je lui envoie les dessins, il me dit ok, d'accord. Et après, j'attendais les nouvelles pour savoir si j'avais vraiment travaillé sur le film ou pas. J'ai attendu 3 semaines pendant lesquelles je refusais du boulot parce que je ne pouvais pas accepter les couvertures en me disant si jamais je commence sur le film, je vais être à fond. Donc j'étais en gros stress. Et puis il me rappelle, il me dit non, mais c'est bon, t'es pris, il n'y a pas de souci. 3 semaines après, Et puis voilà, il y a cette image-là, je l'ai envoyée à Veta Digital, le gars qui avait fait des effets spéciaux du Seigneur des Anneaux. On dit, ah, bah voilà, on a pris cette image-là, ça me plaisait bien, et puis on a fait une course, il y aura une course-poursuite en vaisseau là-dedans. Et ils l'ont monté, tout ça remet. Voilà. C'était bien sympa.
On arrive au bout de cet entretien, on a une demi-heure encore. C'est à vous. Dites-nous les livres que vous avez aimés. Si vous avez aimé Zelazny, vous avez bon ce soir. Mais vous pouvez avoir lu d'autres titres qui vous plaisent. Ou est-ce que vous avez
il n'est jamais trop tard pour bien
faire. Vous l'avez compris. Ou si vous avez des questions à poser à notre auteur. Oui. Allez-y. Est-ce que quelqu'un a un mot à dire sur Anki Villal, grand dessinateur et scénariste de bande dessinée pour le coup.
Et réalisateur.
Et réalisateur aussi, de Booker et d'autres.
Bah, bon, en termes de. On parlait de visuel fort français, Anki Villal, vous tapez fort parce que c'est quand même quelqu'un là aussi, suscité toi Casa ou pour découvertir. De Ruyer, voilà, on est sur des noms qui ont. Qui continuent à marquer, parce que justement ils ont une profondeur, cette réflexion sur le futur proche qui est quand même très singulière. Après c'est vrai qu'Anki Villal, moi je suis un grand fan, hein, de la trilogie Nicopole et même sa vraie fausse trilogie, puisqu'il avait sorti une trilogie qui est sortie en 4 tomes finalement. Et par contre c'est vrai que c'est toujours noir quand même, hein. Il n'y avait pas d'espoir dans. Après, en termes du dessin, je suis ultra fan. Et on parlait de la place de l'auteur. Vous le savez peut-être, Anki Villal utilise pour ses personnages son propre visage à chaque fois. C'est une déformation de ses propres traits. Ah ouais, c'est singulier aussi comme approche.
Alors, ça arrive souvent, ça.
C'est vrai ?
Ah oui, c'est très courant chez les illustrateurs.
Ah ouais ?
Bah, c'est facile, c'est la référence qu'on a le plus facilement.
Regarde.
Non, pas du tout. Sauf pour Valérian, Mézières utilisait la tête de Hugo Frey. Ça, c'est un truc.
Jeune.
Donc toi, tu es sur quelle couverture ?
Là ?
Toi, tu t'es illustré sur des couvertures ?
Oui. Je ne me souviens pas du titre.
Ce soir, galerie.
Il a dit qu'il mettait pas de personnage.
Et j'en ai une où j'ai représenté le roi Arthur avec la tête d'Alexandre Astier.
Ah, bravo, c'est pas mal.
Ça fait une référence, quoi. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser ou un autre auteur à nous faire partager dans vos coups de cœur en fantasy ?
Je voudrais peut-être rebondir sur Bilal, entre guillemets, pour lui faire de mal. Son dernier album, c'est Nug, c'est le premier livre d'une série. Et il est en train de l'adapter en série télé, justement. Et je rebondis aussi sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à Game of Thrones. Est-ce que finalement, le cinéma est en perte de vitesse par rapport aux séries ? Parce que même quand on regarde les grands succès de cinéma actuels, c'est des franchises. Et c'est ni plus ni moins que des épisodes cinématographiques qui sont projetés à un an d'intervalle. Autant les super-héros qu'Alien, que je ne sais quoi. Et quand on voit que Game of Thrones a eu un méga succès, a relancé le succès de Martin, et quand on voit aussi que des livres un peu complexes, comme le Maître du Haut Château, ont été adaptés aussi en série, parce que le cinéma finalement a un format trop court, est-ce que c'est pas le cinéma qui va être l'avenir de la fiction animée, je dirais, entre guillemets, la série télé, l'avenir de la fiction plutôt que le cinéma.
Ça, c'est sûr, c'est une tendance lourde. Hein. C'est-à-dire que les projets d'adaptation, on en a deux ou trois par semaine. Et effectivement, 9 fois sur 10, c'est d'abord des adaptations en série. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que, par exemple, George Martin, il y a une autre série qui doit être tirée de Skin Trade, par exemple, qui a un petit bouquin fantastique. Le bouquin fait 200 pages. Je ne sais pas comment ils vont tenir 10 épisodes. Hein. Et à un moment...
C'est comme faire le Hobbit en trois parties. Ouais,
justement, c'est là que ça fait peur.
Je pense, là, j'ai une petite réponse pour ça, c'est que le cinéma, ça a changé les décisionnaires pour tous les studios. Maintenant, c'est des banquiers. Donc, il y a des impératifs marketing qui sont gigantesques. C'est pour ça qu'on a toujours le même film, avec toujours les mêmes histoires. C'est pour ça que tous les Pixar, ça raconte la même chose. C'est grosso modo un enfant qui perd le contact avec sa famille et puis qui essaye de le rejoindre, que ce soit un poisson rouge, un jouet ou n'importe, c'est toujours le même scénario. Ça, c'est parce qu'il faut que ça soit validé par la banque, donc voilà, il faut qu'il y ait des rendements. Et les sujets des films sont imposés à l'avance. Tiens, ça fait tant de temps qu'on n'a pas fait un film mythologique, donc vous pouvez regarder le cycle, c'est à peu près tous les 3-4 ans qu'il y a des films à sujet qui vont sortir. Alors que les grosses chaînes comme Netflix, par exemple, ou HBO qui font Game of Thrones, et puis Netflix, ce genre de trucs, eux, ils cherchent plutôt de la qualité des programmes qui vont amener les gens. Donc, c'est pas exactement la même chose. Ils veulent fidéliser des spectateurs. Donc ils ont intérêt à avoir des programmes de qualité avec des bons scénarios.
Parce que c'est un système par abonnement.
Exactement.
Si tu veux fidéliser ton spectateur et sur ton, qui paye son abonnement, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit régulier, puis qu'il y ait de la qualité qui soit régulière, puis qu'il y ait un phénomène de nouveauté, etc., etc. Et c'est quand même relativement court, des abonnements au mois. Donc tu as intérêt à enchaîner temps, et à ce que ça soit bon.
D'où la qualité des séries, voilà. Westworld aussi. Ouais.
Et puis il y a aussi un truc, c'est qu'on parle très souvent des séries américaines, mais c'est Epsilon. Les très très bonnes séries américaines sont produites par des chaînes câblées, par des chaînes privées, sur abonnement. Donc eux prennent des risques, ils y vont et ils proposent une qualité extraordinaire. Sinon les grandes chaînes américaines, c'est toujours un peu la même soupe pour justement tranquilliser le banquier. En France, on nous parle de la fameuse ménagère de moins de 50 ans dont on ne sait toujours pas qui c'est, mais en tout cas on lui formate des choses comme ça. J'ai travaillé il y a une quinzaine d'années pour le cinéma, j'avais un agent et tout, et c'était cauchemardesque. Parce que dès qu'on proposait ne serait-ce qu'un synopsis, on nous boulait sur une ou deux idées en nous disant attention, si tu abordes tel sujet, c'est en deuxième partie de soirée. Donc on parlait même pas de cinéma, on parlait déjà de reprise par la télé, parce que l'argent était déjà à la télé. C'est-à-dire que les banquiers suivaient quand la télé préemptait le film. Et donc il fallait déjà réfléchir à ça. Et ça donne une espèce de sclérose comme ça qui est terrible. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des impératifs dans le cinéma du nombre de séances par jour. Il y a des films qu'on a été obligé de couper pour pouvoir mettre une séance supplémentaire par jour. Si c'est trop long, c'est un manque à gagner. La télé a réinventé un truc. D'abord, ils ont de l'argent. Les chaînes privées américaines sont prêtes à prendre des paris phénoménaux parce que Game of Thrones n'était pas gagné. Et ça a été le jackpot. Et il y a plein d'autres séries. Ne serait-ce qu'en policier récemment avec la première saison de True Detective. C'était la première fois depuis 10 ans qu'on n'avait pas une caméra épileptique, que ça prenait le temps de poser et que ça construisait des personnages. Et c'était stupéfiant. Et c'est aussi la première fois depuis bien longtemps que c'est un seul réalisateur qui a fait tous les épisodes. Donc on est face à un film qui prend le temps, qui dure 10 heures et qui propose quelque chose. Et je crois qu'on a envie de ça. Et là, pour le coup, la boucle est bouclée, on se rapproche de la littérature. C'est-à-dire que au lieu de vous saupoudrer des bonnes idées et puis de vous mettre des personnages en 2D, on vous propose de l'humain au sein d'une véritable histoire et vous vous attachez au personnage et vous pouvez vous identifier d'autant plus et vous allez de plus en plus loin. Mais très longtemps, j'espère que des réalisateurs comme Besson, parce qu'ils sont bankable, parce qu'ils se permettent des tas de choses, vont ouvrir la porte à d'autres réalisateurs en France, parce que regarder en télé, c'est très très compliqué. Moi, je connais plein de scénaristes qui rêvent de faire du HBO. Dès l'arrivée, on a Navarro. C'est autre chose. Ça fonctionne, hein, qu'on s'entende. Je ne suis pas en train de cracher dans la soupe, mais c'est à des années-lumière du propos. Sauf que, voilà, ça...
La semaine dernière, il y a Netflix qui a annoncé qu'ils étaient en contact avec Luc Besson.
Ouais. Il y a une anecdote là-dessus. Il y a Pierre Bordage qui a
qui est donc un des grands auteurs d'imaginaire en France, qui a travaillé pas mal à essayer de placer des choses dans les séries ou dans les films. Et il raconte que de temps en temps, sur un synopsis, on lui dit « Ah non, là, ça ne peut pas exploser, ça coûte trop cher. Donc ça n'explosera pas. » Donc voilà, il y a une considération financière en permanence. Et il le dit, bah, « Moi, dans mes romans, je peux faire exploser une planète. » Ça me coûte que dalle, hein. Pour le coup, je peux faire mourir à des gens, il n'y a pas de problème, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le côté. Par contre, je suis surpris, vraiment, si on parle des séries télé, du nombre d'adaptations, du nombre de romans qui sont préemptés. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner, hein, mais du nombre de projets qu'il y a, notamment liés à l'imaginaire. Là, vous avez Carbone modifié, qui vient d'arriver de Richard Mangan, hein, sur... Il y a Shannara qui s'arrête.
Enfin, Spence, Shannara.
Ouais, il y a vraiment un phénomène.
Le rempart sud de Vandermeer qui est adapté au cinéma.
Mais il y en a plein. Il y a Night Flyer de George Martin, il y a vraiment beaucoup.
Magipour de Spielberg.
Ce qui est rigolo, c'est que le Trône de Fer, George Martin, il l'a fait en réaction à ses expériences de scénariste de séries télé. Parce qu'il a travaillé pendant 5 ans, comme ça, en fait. Il a fait quelques livres qui avaient eu du succès, et un de ses meilleurs livres, d'ailleurs, c'était son livre sur le rock.
Armageddon Rag,
voilà. En fait, il a passé beaucoup de temps dessus, et ça n'a pas marché du tout comme il aurait souhaité. Du coup, il s'est mis à travailler pour les séries télévision, il travaillait sur La Belle et la Bête, avec Ron Perlman à l'époque.
Vous vous souvenez cette série dans les souterrains, c'est
les
ça
souterrains,
hein, ouais. Les souterrains de New York, je crois.
Et où il se retrouvait, où il voulait faire la bête, et en fait, à la place, il disait, ben, il a des grosses griffes, il aurait éventré les victimes, il se retrouvait à prendre des méchants, il les prenait, il les jetait au mur. Et voilà, et quand il y avait un accident de voiture, il fallait à tout prix montrer que la personne avait survécu, qu'elle sortait, que
c'était un mystère. C'était une série à l'eau de rose, en fait.
Ouais, c'était les séries à l'ancienne, où il y avait toujours le même scénario, et c'était à chaque fois, on changeait juste des variations. Donc, le Trône de Fer, il avait fait exprès. De la violence, un truc plus réaliste, et puis avec on tue le héros pour justement pour casser ça. Et
t'as spoilé ceux qui ne connaissaient pas.
Mais c'était avant les chaînes à péage, c'est aussi pour ça. C'était les grands networks qui faisaient ces films-là.
Oui.
Donc il fallait que ce soit très.
Très lisse.
Très lisse. Mais finalement, c'est les chaînes à péage qui ont révolutionné les choses.
Oui,
d'une certaine façon.
Oui, parce que d'un seul coup, la qualité est devenue bien. Pour le coup, parce que quand vous regardez. Effectivement, les séries qu'il y avait avant par rapport à ce qu'on peut avoir maintenant en termes d'effets spéciaux, en termes de scénario, en termes de distance, il y a quand même un monde, hein, entre Buffy contre les vampires et Game of Thrones, quoi. Donc, je dis pas de mal de Buffy contre les vampires s'il y a des fans, hein, mais bien d'accord, ce n'était qu'un exemple parmi d'autres, quoi. J'en connais des rapports de fans.
Les chaînes privées ont mis quand même quelques années à réaliser qu'il n'y avait pas que le foot et les films porno dans la vie. Et il fallait quand même se démarquer, donc là ils y sont allés pour le coup, et je trouve plutôt bien. Il y a pléthore de grandes séries qui sont arrivées, et moi je touche du bois pour que les Français s'en emparent à leur tour et fassent des choses bien, quoi.
Ouais, ça arrive en polar, puisque en polar il y a 2-3 séries faites par les Français qui en Grenage, par exemple.
Alex Hugo.
Oui, Alex Hugo. Braco.
Ouais, Braco, c'est parti en sucette.
La première saison. Voilà, est très bien, mais après, ça part difficilement en quelques
heures. Ils ont bien fait d'arrêter.
Oui, il ne faudrait pas qu'ils recommencent.
Petite anecdote, histoire de rigoler un peu sur les séries télé. Shérif, ça marche très très bien en France. À l'origine, ça devait être une série comique. Ouais. Je nierais avoir tenu ses propos, même si c'est enregistré. Mais j'en ai discuté avec un des créateurs et il était tout content à l'époque. Il faisait des bons partout en disant qu'ils avaient réussi à vendre une série comique très très drôle. Et vous allez comprendre le grand écart, hein, à l'arrivée. Ça devait être avec Atman Khelif, l'acteur des chiens. Il avait grandi avec les films de Belmondo et il y avait un jeu de mots. Ça s'appelait Kader, shérif. Et donc écrit à la shérif, SH. Et en fait, c'était un flic de la tenue qui se rêvait inspecteur de police et qui fantasmait, connaissait toutes les répliques de Belmondo par cœur et voilà, faisait des cascades tout seul sur des capots de voiture pour faire un contrôle d'identité sur une vieille dame. Et c'était très toon. Et les gars, au fur et à mesure, ont dit « Ouais, c'est pas mal, mais c'est un peu clivant. Ce qui serait bien, c'est qu'il soit plus jeune et puis un peu... Vous pourriez pas faire une histoire d'amour avec une... » Bon, avec un gendarme, comme ça, on aura les deux, puis ça donne ce que ça donne à l'arrivée. Voilà, c'est très, très, très compliqué d'imposer une série en France avec un ton. Et... Bon, le résultat est ce qu'il est. Hein. Je critique pas du tout le truc, ça fonctionne. Mais il faut accepter tout ça avant que ça arrive à l'écran.
Après, je me souviens, on avait eu Max Brooks aux Utopiennes il y a quelques années, et il venait de sortir World War Z. Et en conférence, comme ça, on en discute. Donc, et je lui dis, qu'est-ce que vous pensez de l'adaptation? Et il me dit, c'est autre chose. Voilà, ça n'a strictement rien à voir. Et souvent, quand on parlait des auteurs anglo-saxons qui sont adaptés, ils disent qu'en gros, vous avez vendu vos droits, c'est bien. Et puis après, ce qui se passe à la fin, c'est autre chose. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de Game of Thrones, parce que dans Game of Thrones, George Martin, au moins sur les premières saisons, il scénarise certains épisodes, donc il participe activement à la série. Mais quand vous regardez sur Amazon Le Maître du Haut Château, par exemple, de Philip K. Dick, voilà, il y a le livre, hein, qui fait 300 pages, et puis il y a la série. Voilà. Ils ont gardé des trucs. C'est déjà pas mal, quoi. Ouais.
Encore que Martin, il se sépare pas mal de la série. Il y a beaucoup de commandes d'illustration où justement il fait dessiner exactement ce qui différencie la série du livre, parce qu'il y a des trucs quand même qu'il a mal digéré. Ouais.
Et puis, ouais. C'est intéressant Game of Thrones, parce que du coup on a une série qui va plus loin que le livre, donc il se sépare au fur et à mesure du livre, alors qu'il a lui encore le livre à écrire. Quoi. Donc il y a beaucoup de lecteurs qui attendent avec impatience les derniers pour savoir.
Ça devient une série dystopique.
C'est une uchronie littéraire. Je ne sais pas si les Simpsons, c'est pas un exemple d'une série qui génère sa propre culture. Vous voyez, c'est propre, un peu comme les Guignols, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on regarde de loin en loin et ça crée sa propre mythologie.
Ouais, ou comme South Park, quoi. C'est un univers en soi.
Alors, plusieurs choses. Je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, les chaînes françaises, à part Canal, soient capables de s'aligner à l'international. Il y a une bonne nouvelle quand même. Il y a une super fenêtre de tir qui vient de s'ouvrir. C'est que Netflix s'est installé en Europe et en France et va commencer à signer des auteurs français. Et ça ouvre des perspectives. Parce qu'on a d'excellents scénaristes en France qui sont, à mon sens, sous-exploités, qui pourraient faire des choses formidables. Donc je croise les doigts pour que ça se fasse. Et j'ai un copain qui s'appelle Sébastien Drouin, qui est réalisateur, scénariste et génie des effets spéciaux, inconnu total du grand public, alors que, accessoirement, à 25 ans, il était déjà responsable des effets spéciaux du Alexandre d'Oliver Stone, une chose comme ça, qu'il a fait des clips de YouTube, enfin bon. Il a tourné récemment 10 épisodes pour Black Pills, qui est une application gratuite, vous pouvez regarder, il suffit de télécharger l'application. ça vous coûte pas un rond, hein, sur une tablette ou sur votre smartphone, et vous pouvez regarder ça. Il a tout tourné en France, à la Cité du cinéma, donc chez M. Besson, en quelques jours, avec des acteurs français, mais ils ont tourné directement en anglais. Et ensuite, il a fallu redoubler les acteurs, mais en tout cas, c'est directement à l'international, c'est une série de science-fiction. Et voilà, et c'est, ça commence à ouvrir des choses comme ça. 10 épisodes de 13 minutes, super efficace.
Alors, je te coupe juste. Moi, je ne suis pas spécialiste du cinéma, mais effectivement, pour bosser pas mal avec des scénaristes, en rencontrer. Aujourd'hui, la machinerie CNC, elle est faite, alors je caricature, hein, en termes de cinéma, sur les séries, je n'y connais rien du tout. Elle est calibrée pour faire la comédie française et ou le film dramatique d'auteur français. Point barre. C'est des volontés politiques, d'orientation, on le déplore, on l'apprécie. C'est comme ça. Aujourd'hui, le décisionnel plus adossé au problème des banquiers, ce que tu soulevais, ça donne ça aujourd'hui. Et effectivement, ça s'ouvre à l'international parce que dans les productions Besson, ça parle en anglais, mais c'est vrai qu'il a fallu Besson, RepaCorp, qui décide de...
Besson, c'est le seul qui ne travaille pas avec le CNC, en fait.
Oui.
Il est financé par les États-Unis. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a... Encore qu'il a réclamé, il n'y a pas longtemps, ça fait un tollé un peu, parce qu'il a réclamé crédit d'impôt sur Valérian. Parce qu'avant Valérian, les films français tournés en anglais n'avaient pas de crédit d'impôt, mais les films anglais tournés en France avaient un crédit d'impôt. Donc il a juste réclamé que les Français qui tournaient en anglais pour pouvoir s'exporter puissent avoir la même chose que les étrangers, en fait. Et c'est avec aussi ce qu'il a réclamé qu'on a pu avoir Dunkerque qui s'est tourné par Christopher Nolan. Donc ça a apporté du monde. Et quand il a fait Valérian, il a fait travailler 2000 personnes pendant 2 ans sur le film, en France. Parce qu'après, il y a eu pareil, 2000 personnes à l'étranger aussi, mais c'était les gens de chez ILM et de Weta, et là, on n'a pas encore les compétences pour l'instant en France pour travailler là-dessus. Donc ouais, c'est toujours un peu compliqué.
Ouais. Bientôt, on compte sur toi maintenant, tu sais
faire. Je fais des images fixes.
Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose, Jacques?
Non, je pensais à ce que disait ma jeune femme tout à l'heure sur les visions du monde contemporain. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que quelquefois, même les films de science-fiction sont en retard. Je ne sais pas si vous avez vu Minority Report. Il y a une séquence où Tom Cruise fuit et qu'à chaque fois qu'il passe devant un magasin, le magasin l'appelle par son prénom, il est identifié et tout. Alors tout le monde dit « Oh là là, ça fait peur ». Cette technologie existe. Elle est mais ça va plus loin que ça, mademoiselle. Ça va bien plus loin que ça. C'est-à-dire que dans un quartier de Séoul, donc c'est là, hein, Corée du Sud, grande ville, tout à fait moderne, mégalopole de type plutôt occidental d'ailleurs, ultralibéralisme, délinquance, et donc sur la base du volontariat, qu'on s'entende, vous n'avez plus besoin de sous, vous n'avez plus besoin de carte bleue, vous n'avez plus besoin de chéquier, donc on ne peut pas vous attaquer, puisque vous n'avez rien sur vous. En revanche, quand vous allez au restaurant, on sait ce que vous avez mangé, en tout cas l'ordinateur central le sait, parce que c'est débité de votre compte. Votre loyer, c'est exactement la même chose, et il vous faut, sur la base du volontariat, accepter qu'on ait une petite puce sous la peau. On fera pareil, je vous rassure, avec vos enfants et votre chien et votre chat, ce qui fait qu'on saura toujours où est Kiki et où sont les enfants. Vous réglez directement la question de l'adultère. On sait toujours que Monsieur X et Madame Y sont à tel endroit en même temps, et ça devient compliqué de prétendre le contraire. C'est sur la base du volontariat. Ce qui est rigolo, c'est que les ingénieurs qui inventaient ça, on en parle très peu. Moi, j'ai chopé 2-3 interlignes dans des journaux, j'ai donc creusé, j'en ai fait un bouquin, un policier. Tout le monde m'a dit, vous avez beaucoup d'imagination, monsieur. Les ingénieurs qui inventaient ça sont dans un pays libéral et pensent qu'ils peuvent, si dans quelques années, ils ont prouvé que la délinquance était tombée à zéro, étendre le modèle à la planète entière. Là où le serpent se mord la queue, c'est que le seul pays du monde qui s'est déclaré très intéressé par cette technologie, c'est la Corée du Nord, qui dit « J'aime beaucoup ce que vous faites ».
Parce que dans les banques ou restaurants, il y a toujours caméra surveillance, qui nous dit que ce n'est pas des places pour espionner les gens, pour mouiller à notre vie privée, pour tout savoir. Après, on se dit, mais putain, mais allez-vous la liberté d'être soi-même? Est-ce qu'un jour on va pouvoir faire ces courses sans être surveillé par cette caméra? Est-ce qu'un jour on va pouvoir manger, je ne sais pas moi, sans s'enlever sous le banc et fumer sa clope sans être surveillé? Et après on se dit, mais putain, elle est passée où la individualité?
Vous avez conscience qu'on est enregistré?
Parce que nous, on veut savoir où est Kiki. C'est vraiment très, 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 très important.
Oui. Encore des machines qui piquent des emplois, quoi. Oui.
Je vais revenir sur l'adaptation, en fait, soit cinématographique, soit par illustration, d'un roman. Le problème, c'est du coup que, quelque part, l'auteur est dépossédé de sa vision propre. Il avait l'image même de son roman, et est dépossédé soit par illustrateur, soit par notation filmique. Je reprends notamment à Kubrick adapté Shining. Stephen King a détesté l'adaptation parce que ça ne correspondait pas, c'était pas assez fantastique pour lui. L'adaptation de Lynch de Dune, de Frank Herbert, qui n'a pas du tout plu non plus. Et pour moi, en fait, ces choses-là sont des facettes supplémentaires du roman. Alors, ça va peut-être à contrario de l'auteur, mais qu'on aime un roman, en fait, ça permet d'avoir une autre facette à travers du prisme, soit l'illustrateur, soit d'un cinéaste, d'une vision qu'on n'aurait pas eue de nous-mêmes, et enrichit en fait le roman de base plutôt que de le desservir, quoi. Donc, je voulais savoir votre avis là-dessus, et si de votre vivant vous étiez dépossédé de votre roman pour une adaptation filmique, est-ce que vous feriez un procès, ou est-ce qu'au contraire vous prendriez ça comme un enrichissement de votre
Enrichissement, c'est juste. Oui. Je vous rappelle que ça se paye très cher, cette petite bêtise-là. Et je crois que finalement on laisse très vite son ego de côté, et le banquier aime beaucoup ce qu'on fait. Non, c'est autre chose, encore une fois. Je suis complètement d'accord. J'ai eu la chance, au tout début de ma carrière, de travailler avec Serge Brussolo. Brussolo a eu quasiment tous ses bouquins présentés par le cinéma, et finalement, il n'y en a eu qu'un seul de tourné au Canada, et puis les Japonais se sont emparés de Peggy Sue. J'avais vu plein de refs et de choses merveilleuses. Il y a Kaza qui a adapté l'un de ses romans publié au Masque en dessin animé, et à chaque fois... Et à chaque fois, Serge me disait, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit, mais on s'en fout. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est une vision très personnelle. Quelqu'un s'empare d'un univers et en propose sa vision. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'à de très très rares exceptions, par exemple Harry Potter, où J.K. Rowling avait sur contrat droit au regard et a vérifié simplement qu'on collait un peu à son œuvre. Même si en une heure et demie, vous ne pouvez pas résumer 1500 pages, il faut faire des coupes. On est d'accord là-dessus. C'est donc une adaptation. Et à partir de là, bah, chaque réalisateur dans la série Harry Potter a plaqué son visuel, je pense son nom, l'espagnol, là, qui avait une vision très sombre, des choses comme ça. Je pense que c'est toujours un plus, toujours quelque chose de différent. J'ai un très bon copain, Bernard Minier, qui fait carton sur carton en policier, qui a fait une série, peut-être que vous avez vu, Glacé, ça c'est le tome 1, qui a été adapté sur la 6. Bernard avait été invité sur le tournage, il a vu en projection le premier épisode de la série. Il y en a eu 6, je crois, pour adapter Glacé. Le casting est éblouissant. Il y a Pascal Grégory qui joue Hartmann, le tueur fou et tout. Et c'est vrai que le premier épisode, scotch, c'est magnifique. Et après, ça part totalement en sucette. C'est-à-dire que c'est plus du tout le bouquin. La fin est changée, ainsi de suite. Mais on s'en fout. On s'en fout pourquoi ? Parce que y a eu des centaines de milliers de spectateurs qui ont vu cette série et qui ont pu découvrir le travail de Bernard parce que titillés, ils sont allés voir. Ils ont découvert que c'était autre chose. Et du coup, ils vont continuer. Donc, ils regarderont sûrement les séquelles qui vont sortir de la série. Mais ils vont continuer à lire l'œuvre et sans doute à jouer au jeu des 7000 différences. Mais c'est ça le truc. C'est que c'est autre chose. On est ailleurs. C'est une autre façon de raconter l'histoire. ma foi, je crois qu'il faut laisser son ego de côté. Et puis c'est un autre métier aussi. C'est-à-dire que nous, on est là pour inventer, pour mettre en mots les images qu'on a en tête. Je ne suis même pas certain que chaque lecteur ait exactement les mêmes images. Parce qu'on le livre, on se l'approprie, alors que le film, on nous l'impose d'une certaine façon. Donc il faut jouer le jeu, et je crois qu'il faut faire confiance, ou alors faire comme King. Tous ces bouquins ont quasiment été adaptés, ma foi, c'est autre chose, on est ailleurs.
Ouais, voilà. Vas-y, pardon.
J'ai deux petites anecdotes là-dessus, c'est déjà sur Dune. Après, celui de Lynch, ce que les gens retiennent souvent, c'est ce qui n'est pas dans le livre. Par exemple, le côté des trois pinces du bec du verre qui n'est pas du tout dans le livre. Normalement, il y a une tête de lamproie. Donc, si on regarde toutes les couvertures de livres qui sont après le film, il y a toujours cette espèce de côté trilomé du verre qui n'est pas du tout dans le livre. Et il y a aussi les gens qui crient comme arme, là.
Le module étrange. C'est le truc trouvé pour que le film soit un seul film.
Voilà. Donc, il y a ça. Et pour Valérian, ce qui est rigolo, c'est que avant la sortie du film, et même après la sortie du film, il y a plein de gens qui ont hurlé au non-respect de la bande dessinée originelle et des personnages qui n'étaient pas pareils, Laureline qui n'avait pas les cheveux roux. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai eu la chance de discuter avec Mézières, il me disait, mais dès que je l'ai vu, je lui dis, c'est vraiment Laureline, et Valérian, c'est pareil, c'est vraiment lui. Alors qu'ils n'ont rien à voir physiquement, mais l'esprit de la BD était respecté, en fait. Ce qui n'a pas plu aux gens, c'est qu'ils respectaient finalement à la fois la bande dessinée, parce que dans la BD, c'est Hugo Frey, mais qui est maladroit. Alors, faut imaginer ça au cinéma, qu'est-ce que ça pourrait rendre un adulte maladroit, un peu bénère. Donc il a fait un jeûne, en fait, pour qu'il reprenne la maladresse et le côté pas musclé du truc. Et voilà, c'est ce qu'il y a des plus, c'est le côté qui n'était justement pas américain.
Moi, ce que j'aime bien dans cette question, c'est la question des univers et de comment un univers s'étend. Il y a la maison d'ailleurs, qui est à Yverdon-les-Bains, avait fait une exposition sur les univers étendus. Et de voir comment les univers étaient étendus à partir de Star Wars, de Tolkien ou bien encore de Lovecraft, avec des démarches d'auteurs bien différentes, hein, dans le sens où Star Wars, pour le coup, c'est déjà pensé comme quelque chose qui est un univers étendu, puisqu'au début, ça, devant les échecs, c'est un comics. Vous avez Tolkien où la famille a vraiment serré tout ce qu'elle a pu en termes d'univers étendu, et Lovecraft où tout le monde s'est approprié en fait l'univers. Et donc il y a une notion qui est immatérielle. Qui est intellectuel, qui appartient à la fois aux auteurs, mais quelque part, l'univers déployé dans un livre, il appartient déjà un petit peu au lecteur et donc un petit peu à quelqu'un d'autre. J'aime bien qu'il y a une réflexion, il y a des gens qui travaillent vraiment sur ces notions d'univers et d'imaginaire.
Voilà, c'est toujours... Non, sur l'adaptation cinématographique, par exemple, le grand drame de ma vie, ça a été de voir que Christian Clavier faisait Astérix. j'ai beau le regarder dans tous les sens, il ne ressemble pas au personnage, vous voyez, et pourtant les réalisateurs se sont approprié le truc et ont fait autre chose, et en même temps ça fonctionne, donc voilà. Et puis il faut toujours laisser, une certaine liberté au réalisateur. Alors là, pour le coup, je ne l'ai pas lu, donc je peux en parler librement, mais Le Seigneur des Anneaux, il y a deux scènes qui m'ont plu. Et j'étais allé le voir à Paris en avant-première avec des garçons qui, visiblement, pouvaient citer le bouquin par cœur, et qui étaient un petit peu, pas autistes, mais pas loin. Et, par exemple, trois quarts d'heure de discussion dans la salle pendant le film pour savoir s'ils avaient vraiment les oreilles pointues comme ça, les elfes et tout, et ça nous laissait... Et en même temps, Jackson s'est autorisé... un clin d'œil au sport national où il n'y a plus que en Nouvelle-Zélande qu'on fait du lancer de nains. Et il en a collé une scène, et je crois pas que ce soit dans le bouquin.
Non.
Tu vois. De même que les elfes qui font du surf depuis les remparts sur un bouclier, je ne sais pas dedans. Voilà, c'est pas grave, ça fonctionne et ça marche. Voilà, ça marche du feu de Dieu, c'est autre chose.
On la voit même pas cette bataille dans le bouquin d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Elle n'est pas décrite.
Alors par contre j'ai lu Bilbo le Hobbit, 3 fois 3 heures, c'est trop bon.
Juste pour revenir encore sur votre question, oui, déjà, avant même le cinéma, il faut arriver, c'est vrai que quand on a un livre, surtout le premier, on a envie que le lecteur, déjà, il ait sa vision des choses. Dès le premier lecteur, en fait, votre livre ne vous appartient plus. Je pense que ça a dû t'arriver sur... en dédicace, il y a des gens qui arrivent, qui t'expliquent le bouquin, qui interprètent tout ce que tu as écrit. Tu dis, bah, c'est incroyable tout ce que j'ai mis dans le bouquin, je n'avais même pas pensé la moitié. Ça prouve bien en fait que déjà, rien que sur le support écrit, il faut avoir un peu l'humilité de se dire, bon, j'ai écrit quelque chose qui vaut ce qu'il vaut. Les gens s'en remparent et ça prouve que ça marche. C'est ce qui prouve que ça marche. Et je pense qu'au niveau de l'adaptation, c'est exactement ça. On reste sur une adaptation, une vision sur un autre média avec d'autres contraintes. Donc il y a quand même beaucoup de filtres. Évidemment, il faut être en niveau d'ego, il faut être très loin. Après, il y a un deuxième point important, surtout en France, on aime bien râler. Donc même si on a du recul, à la fin, on râle quand même dessus. Il faut.
Contre un gros chèque, ces auteurs-là ne râleront pas, ça c'est sûr.
Un exemple récent, je suis fan absolu de Denis Lehane. Ouais. Je trouve que Scorsese est un immense réalisateur, que DiCaprio est probablement un des plus grands acteurs actuels. Et j'ai commis l'erreur de lire Shutter Island avant d'aller voir le film. Ouais. Et il m'a fallu acheter le film. Après être allé voir au cinéma, être sorti avec un avis très très mitigé, et le revoir deux fois avant de me rendre compte que c'est un très bon film. C'est juste que c'était pas mon film. Et donc j'imagine que Denis Lehane lui-même a dû avoir un choc, mais c'est comme ça. Et en même temps, c'est la patte de Scorsese, c'est servi par un casting éblouissant, et c'est magnifique. Sauf que on n'arrivera jamais à remplacer la puissance du cinéma intérieur qu'on peut se faire chacun, confronté à un bouquin. Voilà. Je crois.
Il y a quelque chose pour les illustrations, il y a un peu le même mécanisme qui se passe. Et il y a plein de petits trucs qu'on apprend au fur et à mesure où on fait les illustrations qui sont de l'ordre de l'abstraction et de ce qu'on donne à manger au cerveau de la personne qui va regarder. Un bon exemple pour ça, c'est le Trône de Fer que George Martin avait commandé. Donc c'était pour une édition intérieure du nom du Trône de Fer. Et je lui avais soumis une centaine de designs différents pour le trône qui tournaient toujours à peu près à la même chose. Et il ne les validait pas, puis au bout d'un moment, j'ai pris un des designs qu'il n'avait pas validé, et je l'ai mis dans une salle qui était très belle, avec façon cathédrale. Donc il y avait le côté moche du trône, mais qui était mis en valeur, parce qu'il y avait un beau décor autour. Et là, il l'a validé tout de suite, et il a partagé mon brouillon, en fait. Donc mon image la plus connue, c'est un brouillon. Mais en fait, il a validé ce décor, il n'a pas validé le trône, il a validé le... Il a validé le contraste entre quelque chose de moche et c'est souvent le cas pour les couvertures et on me dit toujours c'est exactement comme ça que je le voyais alors qu'en fait c'est juste la couleur que j'ai mise avec la composition qui correspond à la scène du livre. Après j'aurais pu changer tous les détails et ça marche.
On va terminer là, on a déjà dépassé de 5 minutes. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, d'avoir participé, puis on a un petit temps dédié à cette discussion encore. Merci à nos auteurs, merci à vous.